Général Lafont Rapnouille, bonjour.
Bonjour monsieur.
Est-ce qu'on en sait plus sur la mort des 3 soldats français dont le véhicule a sauté sur une mine près de Thessalite mardi dernier? Est-ce qu'il y a eu une revendication? Est-ce qu'on a des précisions sur la nature de l'engin utilisé?
Je peux juste vous dire que j'ai vu dans la presse une revendication d'Ansar Eddine, mais je ne saurais pas vous confirmer cette information.
Les mines et les engins explosifs improvisés sont aujourd'hui la menace la plus récurrente dans le Nord. Il en explose plusieurs chaque semaine et les engins sont de plus en plus sophistiqués. Est-ce que vous envisagez des moyens nouveaux pour y faire face ?
Ce qu'il faut bien comprendre d'abord, c'est que ce mode d'action est un petit peu une démarche du faible au fort. On voit bien que les groupes armés terroristes ne sont plus aujourd'hui en mesure de mener des actions de force. Bien sûr, nous développons énormément de modes d'action pour lutter contre cette menace. La première, c'est bien sûr tout ce qui concerne les équipements, la mise en place de véhicules blindés de plus en plus sophistiqués, et on renforce cette capacité régulièrement. Bien sûr, ensuite, c'est dans les modes d'action et dans les procédures que l'on met en œuvre, la reconnaissance des points jugés dangereux. Et puis derrière, on a également des moyens très sophistiqués de recherche, de manière à pouvoir identifier la façon dont ces engins explosifs ont été confectionnés, identifier ceux qui les ont mis en place, parce que l'objectif, il est bien in fine d'aller attraper ceux qui confectionnent ces explosifs, et il y en a quand même relativement peu, et puis de pouvoir détruire les fabriques de construction.
La zone de Thessalite et plus largement la région de Kidal avec les Adrar des Iforas ou de la Mététaï était déjà la principale zone de repli des groupes djihadistes au début de l'intervention militaire française en 2013. Aujourd'hui, en dépit des opérations de ratissage et de la présence de Barkhane, cette région de Kidal demeure la zone la plus sensible. Comment est-ce que vous expliquez cela ?
La région de Kidal a toujours été un petit peu au cœur des rébellions Touareg, ça ne date pas d'aujourd'hui. Il faut quand même minimiser cette menace. Ce sanctuaire a été complètement détruit et aujourd'hui les terroristes ont énormément de mal pour se reconstituer des sanctuaires. Donc la lutte contre cette menace-là, elle vise pas à éradiquer à 100% cette menace terroriste, c'est quasiment mission impossible, mais bien de maintenir une pression suffisante pour les empêcher de mener des actions de force. Après, vous avez toujours des toutes petites équipes mobiles et ceux qui posent ces engins explosifs, c'est un ou deux gars en moto, de nuit, et il est bien sûr très très difficile de les identifier et de les saisir au moment où ils commettent leur forfait.
Ces groupes, ACMI, Al-Mourabitoun, Ansar Eddine, le Front de Libération du Massina, aujourd'hui, selon vous, cela représente combien d'hommes ?
Je pense que ceux qui sont vraiment radicalisés demeurent assez marginaux. On connaît certains chefs. Et je pense que c'est sur cela qu'il faut vraiment faire porter notre effort. Après, comme souvent, ces terroristes jouent sur une population un petit peu en déshérence, jeunes en particulier, pour recruter de pauvres gars, parfois des enfants, pour commettre leur forfait.
Combien d'hommes environ ?
Aux alentours de 200 peut-être, je dirais, mais ça reste très très difficile à déterminer une fois encore.
Vous parliez des chefs, on sait que Mokhtar Belmokhtar, d'Al-Mourabitoun ou Yad Akhrali, d'Ansar Eddine sont des cibles prioritaires pour Barkhane. Beaucoup s'interrogent, cela dit, sur le temps que vous mettez à les trouver, en dépit de tous vos moyens techniques de renseignement.
Ce sont des hommes certainement très très bien organisés, très intelligents, et qui font évoluer également la façon dont ils opèrent en fonction de l'évolution de nos propres modes d'action. Donc notre objectif, il est bien de pouvoir être plus rapide et plus ingénieux qu'eux pour pouvoir les surprendre.
Vous avez décrit des groupes terroristes affaiblis. Cela dit, ces derniers mois, on n'a pas eu le sentiment qu'ils étaient vraiment en position de faiblesse. Il y a eu les attaques de Bamako, de Ouagadougou, de Grand Bassam. Ici, dans le nord du Mali, des camps onusiens, Tombouctou, Kidal, qui ont essuyé des attaques complexes. L'armée malienne également, avec parfois de lourds bilans. Est-ce que ce n'est pas malgré tout le signe qu'ils ont finalement réussi à très bien se réorganiser ?
Si vous regardez les modes d'action de ces différentes attaques, ce sont de très faibles volumes, 2-3 personnes. La dernière attaque sur l'hôtel Nord-Sud à Bamako, c'était un voire deux terroristes. De très jeunes hommes, très peu informés, recrutés sur le tard. On sent plutôt des actions un petit peu désespérées. Certes, il ne faut pas minimiser le bilan, mais vous imaginez bien que sur une immensité comme celle de la bande sahélo-saharienne, il est très difficile de pouvoir empêcher ce genre d'événement. Je pense qu'on arrive à bien les limiter, on ne pourra pas l'éradiquer.
Ça fait plus de 3 ans que les soldats français sont au Mali. Aucune date n'a jamais été avancée pour un départ des troupes, ni du côté de Paris, ni du côté de Bamako. Selon vous, est-ce que cette présence a vocation à durer encore longtemps ?
Alors si vous parlez de vocation, la vocation d'une force armée, en particulier étrangère, lorsqu'elle intervient à la demande d'un pays, elle n'a pas vocation à rester. Elle n'a pas vocation à durer parce que ce serait dans ces cas-là un constat d'échec. En revanche, tant que la situation n'est pas stabilisée et tant que les pays concernés ne sont pas en capacité de prendre la responsabilité de la sécurisation globale de leur pays à leur charge, bien sûr on sera à leur côté et on poursuivra d'agir à leur côté comme on l'a fait depuis 3 ans.
Général Lafond-Rapnouille, merci.
Merci.